Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Oui, votre Esprit Seigneur se fera une création nouvelle.
Et vous renouvellerez la face de la terre.
Prions, ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation. Le même Jésus-Christ, notre Seigneur.
Ainsi soit-il.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il.
Nos saints anges gardiens, Saint Pédis,
priez pour nous.
Saint Joseph,
priez pour nous.
Saint Thomas d'Aquin,
priez pour nous.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors nous avançons dans ce traité donc sur la charité. Nous en sommes à la question 25, article 8, donc sur le polycopie en bas de la page 95. Doit-on aimer de charité ses ennemis? Ce sont des questions de saint Thomas qui n'ont pas pris une ride. Surtout actuellement, avec toutes ces histoires de migrants, tout ça, la fausse charité pratiquée par Bergoglio dans son église de Vatican II, les gens ont mis la savelle à l'envers, littéralement. Donc il faut reprendre les véritables principes. Alors voyons un peu ce que, directement à partir du texte de saint Thomas, donc j'ai résumé prenant les plus belles parties, donc en bas de la page 95 et en haut de la page 96. Donc voilà ce que dit saint Thomas. Donc la question, l'article 8 de la question 25, pour titre, la charité nous oblige-t-elle à aimer nos ennemis? Il est évident qu'il va falloir faire une distinction, hein, tout le monde peut deviner ça, entre la personne et l'acte. Le bon Dieu va nous demander d'aimer la personne, mais pas l'acte mauvais fait par l'ennemi. Pourquoi? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ nous demande d'aimer nos ennemis. L'amour des ennemis peut être compris de trois manières, dit saint Thomas. On peut d'abord entendre que les ennemis soient aimés comme tels. Cela serait mauvais, contraire à la charité, on aimerait le mal d'autrui. Donc le bon Dieu ne demande pas d'aimer ce qui est mal dans le prochain, d'aimer au contraire dans le prochain ce qui est de Dieu, à savoir sa création. Le prochain créé par Dieu à l'image et à la ressemblance, au moins l'image de Dieu et parfois à la ressemblance de Dieu. Donc, il faut aimer ce qui est de Dieu dans le prochain. Bon. On peut entendre ensuite, deuxièmement, que les ennemis soient aimés quant à la nature humaine. Donc, cet amour est exigé par la charité. En ce sens que nous sommes tous égaux sur ce plan-là, et uniquement sur ce plan-là. Chacun est différent, donc il n'y a pas d'égalité. N'oublions pas que l'une des meilleures façons de planquer la pagaille dans un pays, c'est d'ici ces trois mots qu'on nous rabat les oreilles à longueur de journée, de liberté, d'égalité, fraternité. Il n'y a pas d'égalité. Tous les hommes sont différents, tous les hommes ont une âme différente, mais ils ont tous la même nature. Donc en tant qu'ils sont créés par Dieu, nous sommes tous égaux. Dans le sens que nous sommes tous des créatures de Dieu qui mourront un jour et que nous serons tous, autant que nous sommes, quelle que soit notre place dans la société, nous serons tous un jour devant Dieu pour rendre compte de notre gestion. Dans ce sens-là, nous sommes tous ces mots égaux. Donc cet amour de la nature humaine est exigé par la charité. Enfin, troisième façon de comprendre le mot amour des ennemis, la phrase amour des ennemis, on peut envisager enfin l'amour des ennemis comme un mouvement particulier d'affection qui nous porterait vers l'un d'eux en particulier. Cet acte n'est pas essentiel à la charité, parce que ça, c'est vraiment de l'héroïsme. Ce que la charité exige de nous, dit saint Thomas, c'est que pour les dispositions du cœur, nous soyons prêts à aimer un ennemi en particulier dans un cas de nécessité. C'est-à-dire aimer nos ennemis, supposer que votre ennemi, soit au bord de la route avec une voiture qui vient de se casser, un moteur qui ne fonctionne plus et qui demande de l'aide, bien, même si c'est votre ennemi, il faut dans ce cas-là l'aider parce que c'est une assistance qui est demandée à une personne qui est dans le besoin. D'accord? Témoigner par des actes d'amour hors le cadre nécessité que l'on aime son ennemi à cause de Dieu, c'est la perfection de la charité, ce qu'on appelle l'héroïsme de la charité. Il est évident que Dieu n'exige pas l'héroïsme de la charité, sinon la vie se deviendrait beaucoup trop difficile pour nous. En effet, plus nous aimons Dieu, dit saint Thomas, plus notre amour se montre envers le prochain, sans être arrêté par aucune inimitié. Alors, nos ennemis, nous étant contraires en tant qu'ennemis, nous devons les haïr comme tels, car leur inimitié est un mal qui doit nous déplaire. Donc, prenons l'exemple, par exemple, du pécheur. Le pécheur qui vit dans le péché jusqu'au cou est ennemi de Dieu. Étant un ennemi de Dieu, puisque nous sommes des fils aimants de notre Seigneur Jésus-Christ, donc les ennemis de Dieu sont nos ennemis. Vous connaissez la formule, les ennemis de mes amis sont mes ennemis, hein, et les amis de mes ennemis sont aussi mes ennemis. Donc à partir du moment où nous avons quelqu'un qui est devant nous, qui est un pécheur, il faut détester le péché, de même qu'il faut détester le péché chez nous d'ailleurs. Hein. Mais, donc nos ennemis nous étant contraires en tant qu'ennemis, nous devons les haïr comme tels, que leur inimitié est un mal qui doit nous déplaire. Mais ils ne sont contraires ni comme hommes, ni comme capables de la béatitude. Sur ce rapport, nous devons les aimer. C'est notre ennemi, il a sauvé son âme comme tout le monde. Même nos pires ennemis. Et même Macron, il a sauvé son âme comme tout le monde. Bon, eh bien, c'est très important pour un prêtre. Hein. Je suppose que ça nous arrive régulièrement d'avoir des choses comme ça, des gens qui nous ont traités plus bactères, qui nous ont traînés dans la boue, etc. Et puis, un beau jour, ils se trouvent à l'hôpital, et puis ils font téléphoner, parce qu'ils n'osent pas téléphoner eux-mêmes par la famille, ils demandent, monsieur l'abbé, est-ce que vous pourriez aller voir un malade à l'hôpital? Oui, bien sûr, j'y vais tout de suite, ben, je vous préviens, ce malade, c'est un tel. Ben, j'y vais tout de suite, ben. Vous ne lui tordez pas le cou? Non, je ne lui tordrai pas le cou, je n'ai pas le droit, je vais le confesser, je vais essayer de l'aider, pour qu'il ne meure pas comme un chien. Et puis on y va, il y a parfois des réconciliations qui se font sur l'île mort, hein, heureusement, parce que là, le prêtre doit agir comme prêtre. C'était le cas aussi pendant la guerre pour les aumôniers militaires. Les aumôniers militaires, ils étaient aussi soldats dans une armée. Et puis quand ils allaient ramasser les blessés, ils étaient brancardiers, ils ramassaient les blessés, ils faisaient leur travail de brancardier, ils faisaient aussi leur travail de prêtre. Et donc ils confessaient les mourants. Et quand ils confessaient les mourants, régulièrement, il y avait des Allemands. Les Allemands, eux, dans la Première Guerre mondiale, en général, ils tuaient les prisonniers français. Mais les Français ne faisaient pas le pareil, évidemment. Et donc, les médecins français, dans les postes d'hôpitaux, eh bien, soignaient les soldats allemands. Et donc, le prêtre, l'aumônier français, avait le devoir de confesser le soldat allemand qui était mourant, exactement comme il avait le devoir de confesser le même soldat français. Pourtant, c'était son ennemi en tant qu'officier, en tant que soldat. Il est de l'armée ennemie, mais en tant que prêtre, il doit avoir un cœur ouvert à la charité. Je trouve que c'est un bon exemple. Donc, j'ai remis ça en bas de la page 95. On retrouve la même chose. Donc, celui qui aime Dieu et le prochain ne doit pas exclure ses ennemis de son amour universel. Donc, on n'a pas le droit de dire « j'aime tous les hommes créés par Dieu, sauf un tel que je peux avoir en peinture. » Vous connaissez la formule « cher du Moyen-Âge, oh mon Dieu, occupez-vous de mes amis, quant à mes ennemis, je m'en occupe. » Bon, c'est pas exactement la prière des chrétiens. Hein, mon Dieu, protégez mes amis, mais protégez aussi mes ennemis, aidez-les à se réconcilier avec vous avant qu'ils meurent. Hein. En tant que mes ennemis, souvent, sont aussi les ennemis de Dieu, pas toujours, mais dans bien des cas, entre autres pour l'Église, pour nous prêtres, très souvent, nos ennemis personnels sont aussi les ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien, il faut prier pour nos ennemis qui sont en même temps les ennemis de Dieu. Hein. Alors, encore une fois, le bon Dieu n'exige pas de nous l'héroïsme de la charité. Il peut l'exiger dans certains cas, mais le bon Dieu ne peut pas demander des choses qui sont héroïques à longueur de journée. Dans certains cas, il peut le faire. C'est le cas, par exemple, du martyr. Les cas du martyr où le bon Dieu va donner la grâce pour quelqu'un de mourir pour lui. Bon, il est évident que si quelqu'un vous dit, voilà, où vous vous jetez de l'encens sur des charbons qui sont placés devant la statue d'un faux dieu, ou vous passez dans la cave avec la cage au lion, et bien le bon Dieu vous donne les grâces pour passer dans la cage au lion. Il est évident qu'un acte comme ça, c'est un acte d'héroïsme. Il y a certains cas où le bon Dieu peut demander l'héroïsme. Mais il ne va pas demander l'héroïsme tout le temps, parce que ça serait trop demandé pour la plupart du commun des mortels. Alors, dans le Polycopier, page 96, donc après je passe à l'article 3 de la question 28, donc je vais rattraper rapidement les choses qui manquent, encore toujours la même chose. Je n'ai pas mis sur le Polycopier l'intégralité du texte de saint Thomas, j'ai pris simplement les passages les plus importants ou les plus beaux, donc je vais compléter par ce qui manque. Donc l'article 9, donc dans cette question 25, il y a 12 articles. Donc, article 9, la charité nous oblige-t-elle à donner à un ennemi des marques extérieures d'affection, hein? Mais c'est un peu la même réponse, c'est-à-dire que faire du bien à ses ennemis, c'est le comble de la perfection. Hein? Donc le bon Dieu vous demande peut demander dans certains cas à certaines personnes un héroïsme pratiquement constant, parce qu'il est placé pour être héroïque. C'est le cas par exemple du prêtre. Dans certains cas, c'est le cas du médecin. En guerre, par exemple, pendant une période de guerre, le médecin, évidemment que le bon Dieu va demander à un médecin un héroïsme tout à fait supérieur à ce qu'il va demander à quelqu'un qui n'est pas médecin pendant la guerre. Le bon Dieu va demander, ou les commandements militaires vont demander à un brancardier, par exemple, qui va chercher des mourants sous le feu de l'ennemi. Il va demander à un brancardier des choses qu'il ne va pas demander aux autres soldats, parce que à partir du moment où on est brancardier, ben, on a un statut spécial dans l'armée qui nous oblige de pratiquer l'héroïsme. Bon, c'est pareil par exemple en période de peste ou en période de maladie contagieuse, on a vu ça au Moyen-Âge, où bien évidemment ceux qui étaient en charge de la ville, ceux qui étaient les échevins de la ville, le maire de la ville, les présidents des associations caritatives de la ville étaient tenus à ce moment-là de donner l'exemple aux autres, hein. Et donc ceux qui étaient responsables de la sécurité, ceux qui étaient responsables des soins médicaux étaient tenus d'aller au pestiféré. Et c'était le cas aussi pour les prêtres. Donc il y a eu des tas de cas où les évêques eux-mêmes, je pense à la peste de Marseille, avec Monseigneur Belzins, qui était évêque de Marseille, donc qui lui, il n'avait même pas voulu obliger tous ses prêtres, parce que beaucoup vont mourir à cause de la peste, et lui-même y allait, il donnait l'exemple, et il était de vous dire que tous les prêtres étaient avec lui pour aller donner les sacrements aux pestiférés au péril de leur vie. Beaucoup sont morts atteints de la peste. Donc faisons du bien à nos ennemis, c'est le compte de faire du bien à ses ennemis, c'est le compte de la perfection. Encore une fois, dans certains cas, le bon Dieu peut demander cet héroïsme. Ce que dit saint Thomas, il y a certaines marques de bienveillance qui se donnent au prochain en général, quand lorsque nous prions pour tous les fidèles ou pour une population entière, ou que nous accordons une faveur à toute une communauté. Dans tel cas, c'est un devoir pour nous de faire participer nos ennemis à ces bienfaits, à ces témoignages d'amour. Ça, tout le monde peut le faire. Les exclure seraient la vengeance défendue par les paroles de l'Écriture. Vous ne chercherez pas à vous venger et vous ne vous rappellerez pas l'injure de vos concitoyens. C'est dans l'Ancien Testament, livre de Lévitique. Ces faveurs, dit saint Thomas, ces témoignages d'amour sont d'obligation à l'égard des ennemis quant aux dispositions intérieures de l'âme, car nous devons être prêts à les secourir en cas de nécessité. Ce que dit notre Seigneur, si votre ennemi a faim, donnez-lui à manger, s'il a soif, donnez-lui à boire. Votre ennemi est en train de mourir de faim, vous devez l'obéir. Vous devez, pardon, le nourrir. Votre ennemi est en train de mourir de soif, vous devez l'abreuver. C'est une obligation en charité. Une obligation qui n'est pas simplement une obligation dans les cas extrêmes, mais c'est une obligation dès qu'il y a péril de mort. Dès qu'il y a péril de mort, il y a dans ce cas-là une obligation en charité. Et en justice aussi. Quelqu'un qui refuserait de pratiquer cela serait gravement coupable. D'ailleurs, même dans le droit français, c'est reconnu ce qu'on appelle non-assistance à personne en danger. Hein? Donc, pour ce qui est de les produire en faveur d'un ennemi qui n'est pas dans la nécessité, cette conduite, nous l'avons déjà dit, appartient à la perfection de la charité. Donc, s'il y a un cas de nécessité, il y a obligation de le faire, de pratiquer cette charité, même à l'égard de notre ennemi. Par contre, si notre ennemi n'est pas dans un cas de nécessité, là, Pratiquer cette charité à l'égard de l'ennemi relève de l'héroïsme.
C'est toutes les œuvres de miséricorde qu'il faut
voilà,
faire.
Voilà, c'est ça, oui, mais c'est... Bon, c'est, encore une fois, c'est facile de faire du bien à ceux qui nous aiment. Le bon Dieu nous demande parfois de faire du bien à ceux qu'on n'aime pas. Et donc c'est très important, surtout pour les gens qui sont en relation avec le public. Par exemple, les prêtres doivent faire très très attention de ne pas manifester leur dégoût pour certaines personnes. Monseigneur Lefebvre nous disait avec raison, il nous disait, vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, vous serez à l'aise avec vos fidèles que dans votre milieu. Le milieu dans lequel vous avez été élevé, le milieu dans lequel vous avez vécu comme enfant, le milieu éducatif que vous avez reçu. Mais il dit, vous ne pourrez jamais changer. Vous ne pourrez jamais changer, que vous ne serez pas à l'aise dans un milieu qui n'est pas le vôtre. Cependant, nous disait-il, vous devez masquer le fait que vous n'êtes pas à l'aise dans un certain milieu. C'est ce qui m'a beaucoup le plus frappé chez Mgr Lefebvre quand je l'ai rencontré pour les premières fois, tout à fait au début au séminaire, c'est que Mgr Lefebvre ne manifestait jamais son dégoût pour une situation quelconque. Vous voyez, on n'arrivait jamais, par exemple, même des détails, on n'arrivait jamais à savoir ce que Mgr Lefebvre aimait ou n'aimait pas à table. Parce qu'il n'avait pas de grande manifestation pour dire qu'il aimait beaucoup telle chose, mais quand il n'aimait pas quelque chose, personne ne le savait. On n'arrivait pas à le savoir. Vous voyez. Et ça, je crois que c'est très important, vous voyez, d'arriver à... Bon, dans certains cas, pour nous prêtres, on doit, même si on est invité dans un milieu qui n'est pas le nôtre, ou avec des coutumes de vie qui ne sont pas les nôtres, par exemple dans un pays étranger, bon, ben, il faut pratiquer la charité, ne pas montrer notre dégoût pour telle ou telle chose. Sauf si dans certains cas, je dirais, où vraiment ça dépasse ce qu'un Français peut supporter, au niveau, entre autres, au niveau de la nourriture. Je me rappelle, c'était Mgr Williamson, j'ai déjà cité cet exemple souvent, Mgr Lefebvre, Mgr Williamson, dans un des pays d'Asie du Sud-Est, je ne sais plus lequel, il était reçu dans une tribu, il a la coutume de bienvenue avec un autre de marque, qui était comme évêque, et c'était de soldats, de serviteurs, amener deux bols, dans un il y avait un poisson rouge qui vivant, qui nageait, et dans l'autre il y avait un bol de sel, il fallait attraper le poisson rouge par la queue, vivant, frétillant, le tremper dans le sel et le gober. Oui.
Bon, c'est coutume culinaire ou c'est pas culturel ça?
Non, c'est des coutumes, non pas culinaires, c'est coutumes de respect. De respect. Il y avait le cava aussi, par exemple, qui est la boisson des hôtes aux îles Fidji. C'était une espèce de racine, une espèce d'eau boueuse qui n'était pas très agréable, une espèce d'eau poivrée qui n'était pas très agréable à manger.
Oui. Ouais, mais ça me fait penser aussi à Jean-Paul II qui dansait littéralement avec des coutumes religieuses.
Mais ça, c'est autre chose. S'il y a une coutume qui va contre la foi, c'est autre chose. Mais là, ça va ni contre la foi ni contre les mœurs. Bon, il est évident qu'il y a parfois des choses que la nature, c'est l'effet qu'on n'arrive pas à manger ça. Par exemple, certaines nourritures aussi qui nous présentaient. Moi, j'avoue, même quand j'étais dans le sud du Mexique, dans les peuplades qui descendaient directement des Aztèques, ils avaient un système culinaire qui était tel que je ne pouvais pas manger ce qu'ils mangeaient. Il y avait trop de piment. C'était tellement fort que je ne pouvais pas. Je n'arrivais pas, pourtant j'essaie d'être poli, mais j'ai dû leur dire, écoutez, je suis désolé, moi je n'ai pas été nourri comme ça, je ne peux pas manger ça, c'est trop fort. S'il vous plaît, ne mettez pas autant de piment pour moi. Et donc, il y avait la formule sin chile, enfin bon, c'est-à-dire sans piment, quoi. Bon, il avait un peu moins, mais enfin, ça restait un arrache boyau absolument incroyable, quoi. Bon, mais il faut en tenir compte. Hein. Il y avait une autre, c'est Williamson qui m'avait raconté ça une fois dans un autre pays, je ne sais plus lequel. Aussi dans ces régions-là, je crois bien que c'était au Cambodge, dans certaines tribus, donc le repas de pour les autres, c'était, enfin, avec la famille, tu étais invité, donc ils attrapaient un singe vivant. Ouais. Bon, ils avaient une espèce de table avec un trou au milieu, ils coinçaient la tête du singe vivant, ils décapitaient le crâne, et puis avec une cuillère, ils mangeaient le cerveau frétillant, quoi. Bon, il est évident que dans des cas comme ça...
C'était dans un film de je sais plus quoi...
Donc, c'est sûr qu'il y a des fois où... Bon, il faut encore, là encore la sagesse se répondre. Il y a certaines, moi je l'ai fait très souvent au Mexique, où il faisait très très chaud dans certains coins, vraiment des chaleurs humides à crever. Et je demandais à boire, mais je savais très bien qu'il fallait jamais boire d'eau du robinet parce que tout de suite on attrapait des amibes. Ils avaient bien, ça mettait le missionnaire par terre, hein, plus rien faire. Et donc on me donnait de l'eau, j'espérais toujours qu'ils me donneraient de l'eau filtrée ou une bouteille d'eau minérale. Et quand je voyais qu'ils me prenaient l'eau du robinet dans les régions très pauvres, je faisais semblant de boire, je ne buvais pas. Et dès que la mère de famille qui m'avait donné le verre d'eau repartait dans la cuisine, paf, je versais l'eau sur un massif de fleurs, par exemple, parce que je savais que j'allais devenir malade si je buvais cette eau. Oui. Bon, mais c'est un peu la même chose avec la charité. Encore une fois, la sagesse va intervenir pour nous dire ce qu'il faut faire. Encore une fois, le bon Dieu ne demande pas, hors cas d'exception, de pratiquer l'héroïsme à longueur de journée, parce que sinon ça nous rendrait, si vous voulez, il faut que cet héroïsme vienne de nous. Le bon Dieu ne va pas l'exiger constamment.
En fonction des circonstances, voilà, c'est pas à nous qu'il y a d'aller chercher.
Voilà, c'est ça. S'il y a des circonstances où le bon Dieu peut le demander, des cas de guerre, des cas de particuliers, pour des gens qui ont des fonctions particulières, encore une fois, certaines fonctions particulières dans la société augmentent les droits, mais augmentent aussi les devoirs. Bon. Donc, la conclusion de l'article 9 de saint Thomas d'Aquin, l'homme parfait s'applique à changer les dispositions de son ennemi en lui faisant du bien, loin de se laisser aller à la haine. Il y a des missionnaires qui ont réussi comme ça à convertir des ennemis à cause de leur exquise charité pour justement les aider à revenir vers le bon Dieu. Article 10 de la question 25. Devons-nous aimer les anges par la charité? Bon, ça c'est plus facile. Donc il n'y a pas de problème. Hein, nous devons les aimer de l'amour de charité parce que justement les anges sont les amis de Dieu. Bon. Question 11. Article 11 de la question 25. Parfois, saint Thomas a des drôles de questions, mais c'est très intéressant. Il se pose la question, la charité doit-elle s'étend-elle aux démons? Bon, et la réponse est toute simple. Nous avons dit que nous devons aimer dans le pécheur la nature humaine et haïr le péché. Donc, le mot démon signifiant une nature déformée par le péché, nous ne devons pas aimer les démons par la charité. D'accord ? Pas aimer les démons par la charité, dans le sens que le démon véhicule le péché, donc véhicule la haine de Dieu, et nous n'avons pas le droit de participer à cette haine de Dieu. Une question importante, un article important, c'est le 12e. Donc, question 25 de Seconda Seconde, article 12. Y a-t-il quatre choses que nous devons aimer par la charité? Dieu, le prochain, notre corps et nous-mêmes. Il est évident qu'il y a une hiérarchie des valeurs. Donc, voilà ce que répond saint Thomas d'Aquin. En citant saint Augustin, il y a quatre choses que nous devons aimer en vertu de la charité. Une qui est au-dessus de nous, Dieu. Une qui nous est identique, nous-mêmes. Une qui est près de nous, le prochain, et une qui est au-dessous de nous, notre propre corps. Donc, ensuite il va expliquer. L'amitié de la charité est fondée sur la communication de la béatitude. Tel est le principe d'où il faut toujours partir. Nous devons donc aimer Dieu comme la source de la béatitude. Nous devons aimer nous-mêmes comme participant directement à la béatitude et comme étant du nombre des êtres que Dieu aime. Nous devons aimer notre corps parce qu'il doit participer à la béatitude par une sorte de rejaillissement, et enfin, pour le prochain, associé à la participation de notre béatitude. Donc, on voit très bien que saint Thomas d'Aquin fait une hiérarchie, respecte une hiérarchie des valeurs, une hiérarchie des personnes. Dieu passe avant le prochain, Dieu passe avant nous-mêmes. Donc, il y a d'abord Dieu, puis nous-mêmes, puis le prochain, puis notre propre corps. Il est évident que notre propre corps, par exemple, participe indirectement à la gloire de Dieu. Le bon Dieu nous a donné un corps et il faut le maintenir en bonne santé pour que notre âme puisse faire son travail. C'est évident, par exemple, ce que nous disait Monseigneur, et j'aimais bien sa formule, il nous disait la première condition pour être un bon prêtre, c'est d'être un prêtre vivant. Ce qu'il nous disait, c'est vrai. Il nous disait, imaginez, il nous dit toujours, moi j'étais missionnaire, il nous disait ça aux missionnaires quand ils venaient nous voir, il nous disait attention à ne pas tirer trop la ficelle. Parce que si vous tirez trop la corde, elle va casser. Et il lui disait, il se rappelait très bien les premiers missionnaires qui partaient par exemple au Dahomey ou dans les pays très durs de l'Afrique centrale. Il nous disait, les jeunes prêtres qui partaient à 25 ans, 26 ans, il disait, c'est un an quoi. Au bout d'un an, ils étaient à moitié morts, rapatriés en France, avec des amis de liasse pour la vie, ou ils mouraient comme des mouches. Il nous disait que dans les cimetières de ces missions, c'était impressionnant de voir les croix sur des jeunes prêtres qui venaient d'arriver. Un an et demi, 18 mois après, ils étaient tous morts, pratiquement. Et Mgr Lefebvre, avec raison, avait exigé dans, dans, les, mission très dure, par exemple au Gabon, il avait interdit aux prêtres en charge de vivre et de faire vivre ses prêtres à la gabonaise. Parce que les prêtres n'avaient pas la solidité physique des Gabonais, tout simplement. Ils ne pouvaient pas tenir le coup. C'était pareil en Inde. En Inde, donc, on a eu des problèmes avec un prêtre, un supérieur qui était très mortifié. Donc, lui couchait par terre, il s'en fichait, couchait par terre et puis couchait sur des nattes, etc. Bon, très bien. S'il veut le faire, c'est son droit. Lui, il dormait n'importe où. Mais il ne faut pas oublier que le prêtre à côté, il est peut-être pas capable de le faire et lui, il ne va pas fermer l'œil de toute la nuit parce que justement, le sol est tellement dur qu'il ne peut pas dormir. Vous voyez ? Ou la nourriture, par exemple. Je me rappelle au Gabon. Je suis allé plusieurs fois pour prêcher, eh bien, à chaque fois, c'est agréable parce que l'abbé Groche, qui était supérieur du Gabon, il était supérieur du Gabon pendant longtemps, il connaissait très bien le Gabon parce qu'il avait été travailler dans une éproserie avant d'entrer au séminaire. Il connaissait bien la nature des gens, il connaissait bien le caractère, la culture des gens, et il avait parfaitement compris que pour conserver ses prêtres, pour qu'ils puissent faire leur devoir de missionnaire, il fallait leur donner un minimum. Et donc, quand le prêtre rentrait de mission en brousse complètement crevée, il fallait voir les difficultés physiques des missions, c'était très très dur, il revenait des missions, peut-être 3-4 jours de mission complètement crevée, mais vraiment lessivé, il retrouvait une chambre avec l'air conditionné, il retrouvait une salle de bain pour pouvoir prendre une douche, pour pouvoir récupérer et être en bonne santé. Voyez. Et il est évident que il avait exigé aussi, par exemple, il avait un chef cuisinier qui cuisinait à la française, un noir, qui faisait très bien la cuisine, et qui cuisinait à la française, pour que le prêtre puisse retrouver une habitude sanitaire, une attitude d'hygiène, une attitude de nourriture, une certaine nourriture auquel il est habitué pour qu'il puisse conserver une bonne santé et être capable de remplir son devoir d'État. Et je me rappelle, Monseigneur a dû faire plusieurs remarques pour des prêtres qui ne comprenaient pas ces choses-là, qui disaient « Ah, on est dans un pays qui n'est pas le nôtre, il faut vivre comme l'habitant. » Mais attendez, vous ne pouvez pas vivre comme l'habitant. Je voyais par exemple au Mexique, dans le sud du Mexique, pour ces histoires de piémont dont je vous ai déjà parlé, c'était... En fait, je me suis aperçu que les enfants considéraient le piment, c'était des ralapenos, hein, c'était du fort, comme une friandise. Vous voyez les petits gamins de 5 ans dans la rue en train de lécher des petits piments en grand 3-4 cm, comme si c'était une glace. Et après, j'ai compris que c'était indispensable pour eux, parce que dans ces milieux très pauvres, ils buvaient l'eau extérieure, pas l'eau du robinet quand il y avait l'eau courante, ou l'eau des puits. Et il y avait tellement de piment dans la nourriture que ça tuait les amibes. Les amibes ne supportaient pas la quantité de piment. Moi-même, j'étais obligé de faire très très attention. Je me rappelle une fois, j'allais célébrer la messe dans une mission comme ça au sud du Mexique, qui était assez pauvre. Puis je me suis aperçu que le sacristain avait oublié de mettre de l'eau dans la burette. Donc je dis au sacristain, il faut mettre de l'eau dans la burette. Il me dit, mais il y a un seau d'eau là dehors. Le seau d'eau, tous les chiens du village venaient boire au seau d'eau. Bon, j'ai dû faire quelque chose pour prendre une bouteille. J'ai toujours une bouteille d'eau minérale, justement, pour nous imposer, nous protéger, éviter qu'on attrape les amibes. Maintenant, c'est pareil. Donc, il faut maintenir notre corps comme un instrument capable de remplir sa fonction. C'est la règle. Sinon, c'est un péché. Donc c'est là où la vertu, le don de sagesse va intervenir. Il y a parfois des gens qui sont extrêmement, extrêmement imprudents, qui vont faire des pénitences terribles, puis qui ne se rendent pas compte, qui fusillent leur santé. Et puis une fois que leur santé est complètement ruinée, ils ne peuvent plus rien faire. J'ai connu un cas comme ça douloureux d'un séminariste qui a fait beaucoup trop de pénitences. Il n'a jamais pu être ordonné prêtre à cause de ses pénitences, parce qu'il s'est complètement fusillé la santé, et puis il a fini par se trouver dans un hôpital psychiatrique. Bon, eh bien, il faut faire attention à ça, donc, encore une fois, avoir cette sagesse pour, justement, remplir son devoir d'État avec son corps et avec son âme. Les deux choses sont des instruments. Le corps est un instrument de l'âme, et l'âme est aussi un instrument au service du bon Dieu. Donc, il faut que je garde une âme en bonne santé spirituelle, et il faut que je garde également mon corps en bonne santé physique. C'est exactement ce que nous demande Saint Thomas. Hein. C'est ce qu'il dit là. Il dit que nous-mêmes, nous sommes des participants directs à la béatitude, et comme nous sommes des êtres que Dieu aime. Et notre corps, pourquoi il faut l'aimer? Parce qu'il est, il doit participer à la béatitude par une sorte de rejaillissement. Donc, faire attention. Question 26, de l'ordre de la charité. Donc, c'est une question, il y a des choses importantes aussi là. Il y a 13 articles. Donc, je vais essayer de couvrir tout ce qui manque, qui n'est pas dans le polycopié. De l'ordre de la charité. Je passe rapidement sur l'article numéro 1 de la question 26, donc seconda secondé, deuxième partie, question 26. Article 1, y a-t-il un ordre à suivre dans la charité? La charité, dit saint Thomas, se portant vers Dieu comme vers les principes de la béatitude, renferme nécessairement un certain ordre à raison des rapports divers des choses avec Dieu. Donc les choses spirituelles passent avant les choses temporelles. Ce que nous dit notre Seigneur Jésus-Christ, méfiez-vous de ceux qui peuvent attaquer les âmes beaucoup plus que de ceux qui peuvent attaquer les corps. Hein. Donc, devons-nous aimer Dieu plus que le prochain? Eh bien, la réponse est absolument évidente. On doit, à cause de Dieu, haïr le prochain qui cherche à nous éloigner du salut. C'est une phrase très forte de saint Thomas, mais qui est très belle. Dire, si le prochain, même le prochain très proche, très direct, comme par exemple mon père, ma mère, si le prochain m'empêche de faire mon salut, eh bien, je dois haïr le prochain. Bon, c'est le cas, par exemple, parfois, dans certains cas, le bon Dieu demande des actes un peu héroïques à certaines personnes qui ne peuvent pas sauver leur âme parce que leurs parents exigent qu'ils soient dans des situations dans lesquelles ils ne pourront pas sauver leur âme. Voilà. Imaginez le cas d'un père de famille qui dise à son fils, bon voilà, je veux absolument que tu fasses telles études, surtout dans certaines époques de l'histoire de notre pays, c'était un peu comme ça, où le père décidait un peu pour les enfants ce qu'il devait faire. Donc imaginez qu'un père de famille de bonne volonté d'ailleurs oblige son enfant à faire par exemple des études dans telle université et que un jeune adulte de 25, 22, 22, 23 ans se rend très bien compte que dans cette université, mais je garde mon âme parce que tout le monde vit n'importe comment. Moi je me rappelle, je ne suis pas plus malin que les autres, quand j'étais en médecine avant d'entrer au séminaire, c'est une des raisons principales qui m'ont fait quitter la médecine. J'étais un étudiant à Timone à Marseille, étudiant en médecine, et tous mes camarades de fac, tous, sans aucune exception, vivaient tous en concubinage. Tous, pas une seule exception. Je me suis dit, mais si tu vis dans une poubelle pareille, une poubelle morale pareille, il n'est pas possible de vivre dans une poubelle pareille sans sentir mauvais. Si tu restes dans une poubelle pareille, tu vas faire comme tout le monde, tu n'es pas plus malin que les autres. Et puis c'est ça qui m'a fait rentrer au séminaire. Il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses qui sont intervenues aussi, mais c'est sûr que c'est aussi important. Pourquoi? Parce que la charité bien ordonnée va d'abord me faire comprendre, je dois rester en état de grâce. Si je suis dans une situation où je ne peux pas rester en état de grâce, je n'ai pas le droit d'y rester. Et c'est un argument que j'utilise très souvent quand les gens me disent, monsieur là-bas, je suis dans telle situation, est-ce que je peux rester là ou est-ce que je dois impérativement changer? Je réponds toujours par une question, est-ce que vous êtes capable dans la vie qui est actuellement la vôtre, dans la situation qui est actuellement la vôtre, est-ce que vous êtes capable de vivre en état de grâce? C'est le cas malheureusement dans les ménages où les parents ne s'entendent pas du tout. Parfois des mamans ou des épouses ou des époux, même dans certains cas, ils disent « Monsieur l'abbé, bon, ça ne va plus du tout avec mon épouse, avec mon époux, c'est la guerre ouverte. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois me séparer? Est-ce que je dois prendre les enfants et partir? Qu'est-ce que je dois faire ?» Et la première question que je vais poser, c'est celle-là. Est-ce que vous êtes capable, madame, monsieur, de vivre en état de grâce là où vous êtes? Ben non, monsieur l'abbé, moi... Mon époux, ça devient impossible, il y a eu des cas malheureux. Mon époux est un païen, littéralement, il se fiche complètement du bon Dieu, il m'oblige à prendre l'avortement. Je suis tombé enceinte, il voulait physiquement m'obliger à avorter. Alors là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Dans un cas comme ça, le bon Dieu ne peut pas vous demander de participer à une œuvre, une œuvre qui est en soi mauvaise, un meurtre. Et donc là, il peut y avoir des cas où il faut partir.
En général, on est plus en paix après.
Voilà, bon, il faut voir au cas par cas et faire très attention. Donc, si quelqu'un vient à moi, dit le Sauveur, et qu'il ne haïsse pas son père ou sa mère, son épouse et ses enfants, ses frères et ses sœurs, il ne peut pas être mon disciple. C'est-à-dire que si mon père, ma mère, mon époux, mon épouse, mes frères, mes sœurs sont pour moi des obstacles qui m'empêchent de vivre en état de grâce, eh bien, il faut couper. Alors pour nous, ce que dit notre Seigneur, si ton bras droit, ton pied droit, ton œil droit sont pour toi des obstacles, coupe, jette au loin. D'accord ? Nous aimons la charité, pardon, étant fondée sur la communication de la béatitude qui est Dieu, qui est en Dieu, comme dans son premier principe, d'où elle se répand sur tous les êtres capables de la posséder. Dieu doit être aimé principalement et par-dessus toute chose. Car nous l'aimons comme la cause de la béatitude, au lieu que le prochain n'est aimé que parce qu'il participe avec nous à cette béatitude. Donc, l'ouvrier intermédiaire passe après celui de qui on a tout reçu, sur notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, Dieu, en tant que tel, est incomparablement meilleur et plus aimable que le prochain. Et donc, Dieu passe avant. Article 3 de cette question 26. L'homme doit-il aimer Dieu plus que lui-même ? Donc, la partie aime, dit saint Thomas, naturellement le bien général de tout plus, de tout, pardon, la partie aime naturellement le bien général du tout plus que son bien propre. Donc, ça, c'est contre l'orgueil, si vous voulez. Dieu est le bien commun de tous les êtres et la béatitude est en lui comme dans une source universelle d'où elle se répand sur tous ceux qui peuvent y participer. Par conséquent, nous devons aimer Dieu par la charité plus que nous-mêmes. Dieu étant la cause de tout, les instruments doivent se soumettre à la cause générale. D'accord ? Donc je m'arrêterai surtout sur les parties plus importantes. Article 4, de la question 26. L'homme doit-il s'aimer lui-même plus que le prochain ? Encore une fois, on retrouve l'ordre qui avait été donné par saint Thomas, dans l'article 12 de la question 25. Y a-t-il quatre choses que nous devons aimer par la charité ? Dieu, le prochain, notre corps et nous-mêmes. Donc on avait déjà vu que Dieu était premier, ensuite le prochain, ensuite notre corps, ensuite nous-mêmes. D'accord ? Pour bien garder la hiérarchie des valeurs. Dieu, l'homme doit-il, dit saint Thomas, s'aimer donc lui-même plus que le prochain ? Il est clair, dit-il, que vous aimerez, c'est l'ordre de notre Seigneur, vous aimerez votre prochain comme vous-même. Il est clair que l'amour de soi est en quelque sorte le modèle de l'amour du prochain. Le modèle doit évidemment l'emporter sur la copie. Donc, il y a certains cas, la charité pour nous-mêmes passe avant l'amour des autres. Parce que l'unité, l'emportant sur l'union, dans certains cas, la charité pour nous-mêmes passe avant l'amour des autres. Aussi, ne doit-on jamais commettre un péché pour sauver la vie à son prochain, ni pour le préserver du péché. Si je peux aider mon prochain sans offenser Dieu, ça marche, je peux le faire. Si je ne peux pas aider le prochain sans offenser Dieu, j'ai pas le droit de le faire. Ça résout des tas de problèmes de morale qui sont de plus en plus fréquents aujourd'hui. Par exemple, des exemples très malheureusement de plus en plus fréquents avec le monde moderne, pour régler des problèmes de stérilité, par exemple dans les couples, etc. Souvent, les gens nous demandent, monsieur l'abbé, est-ce que j'ai le droit de faire des examens spermatiques pour voir s'il y a un problème d'ordre physique. Bon, si cet examen ne peut pas être fait sans qu'il y ait une faute grave contre la pureté qui soit commise, la réponse est non. C'est-à-dire que le bon Dieu ne permet pas que vous ayez des enfants pour le moment. Donc, cette règle de saint Thomas est une règle absolue. Ne doit-on jamais commettre un péché pour sauver la vie à son prochain, ni pour le préserver du péché. Le bien commun est naturellement plus aimable que le bien propre. La partie aime naturellement le bien du tout plus que le bien partiel que lui est propre. Donc, si vous voulez, c'est l'exemple classique du berger qui a un troupeau, une centaine de brebis, il y en a une qui est malade. Bon. Est-ce qu'il a le devoir de s'occuper de la brebis malade et de laisser les autres brebis sans protection? Elles vont toutes se faire dévorer par le loup. Eh bien non, il faut qu'il s'occupe d'abord du bien commun. Le bien particulier passe après. Et s'il n'a pas le temps de tout faire, eh bien il laisse tomber le bien commun et puis il va abandonner la brebis malade parce qu'il ne peut pas s'occuper de tout le monde. D'accord ? Article 5 de la question 26. L'homme doit-il aimer son prochain plus que son propre corps ? Alors la réponse est la suivante, il faut en conclure que nous devons aimer le prochain relativement au salut de son âme plus que notre propre corps. Vous voyez, saint Thomas fait bien la distinction, relativement au salut de son âme, c'est-à-dire qu'il s'agit de choses spirituelles. La charité ne nous fait un devoir d'exposer notre corps pour le salut du prochain que dans les cas où il y a obligation pour nous d'y pourvoir. Sacrifier volontairement sa vie hors de ces cas, c'est la perfection de la charité. Encore une fois, il faut voir un petit peu au cas par cas. Exemple classique aussi qu'on donne, c'est le cas par exemple d'un pompier. Un pompier qui est payé pour ça, un soldat qui est payé pour ça, eh bien il va devoir faire des choses qui relèvent de l'héroïsme et qu'un non-pompier ou un non-soldat ne sera pas obligé de faire. Donc encore une fois, là il faut avoir ce don de sagesse, le don de sagesse et le don de conseil, les deux. En fait, ce qui règle tout ça, c'est aussi la vertu de prudence. Hein. Mais la vertu de prudence ne sera vraiment une vertu équilibrée, parce que c'est une vertu cardinale, donc qui est un équilibre entre deux excès. Le don de prudence sera un la vertu de prudence, pardon, parce que c'est une vertu cardinale. La vertu de prudence sera équilibrée entre deux excès, l'imprudence et la présomption, que dans la mesure où justement elle est dirigée par la sagesse et le don de sagesse et le don de conseil. Bon. Article 6 de la question 26. Y a-t-il des personnes que nous devons aimer plus que les autres? L'amour doit être plus grand en proportion que la personne qui en est l'objet est plus rapprochée de Dieu ou de nous. Bon, il est évident que, je ne sais pas moi, une mère de famille doit aimer plus ses enfants que les enfants du voisin. Bon, et la mère de famille, une mère de famille aurait droit de refuser, si vous voulez, d'aider l'enfant du voisin si le fait qu'elle prend l'enfant du voisin va flanquer la pagaille dans sa propre famille. La charité bien ordonnée commence par soi-même, d'accord? Donc, en fonction, à proportion que la personne est plus rapprochée de Dieu ou de nous, il faut l'aimer davantage. Article 7, donc on voit que saint Thomas monte dans les échelons, si vous voulez. Article 7, devons-nous aimer nos proches plus que les personnes qui les surpassent en vertu? Si quelqu'un, dit l'apôtre, n'a pas soin des siens, et principalement de ses serviteurs, il apostasie la foi, il est pire qu'un infidèle. Ce texte prouve que nous devons avoir plus de charité pour nos proches que pour les autres personnes. Les proches, c'est quoi? Il y a différents prochains, les prochains éloignés, les prochains proches. Le prochain qui est tout proche, à savoir les membres directs de notre famille, doivent passer avant les prochains éloignés. J'ai vu ça dans plusieurs familles, où le père de famille, si vous voulez, par une fausse notion de charité, aidait beaucoup trop les autres, alors qu'ils n'étaient pas tenus. Et du coup, il allait constamment, et elle aidait par exemple son frère, il aidait constamment son frère parce qu'il avait tas de problèmes dans sa maison. Et puis son épouse, à lui, elle n'arrêtait pas de demander que des choses matérielles soient faites dans la maison. Et c'était jamais fait parce que le mari n'était jamais là. Bon, et jusqu'au jour, l'épouse avec raison a mis un peu le pied dans l'ouverture de la porte en disant à son mari, c'est lui ou moi, il y a un des deux qui va sauter. Hein. Et où tu fais passer ton frère avant, tu fais passer ton épouse et tes enfants avant. Hein? Sinon, je m'en vais. Alors là, d'un seul coup, il a ouvert les yeux, bon, il est venu voir le prêtre, et le prêtre lui a dit, mais votre épouse a parfaitement raison. Parfaitement raison, il faut faire passer le prochain avant, le prochain éloigné, le prochain proche avant le prochain éloigné. Oh. Alors, il y a une petite note de saint Thomas ici. Du côté de Dieu, d'où se prend la raison d'aimer le prochain, la charité désire essentiellement que la béatitude soit accordée dans un degré supérieur aux personnes plus vertueuses. Elle veut que la justice de Dieu soit observée. C'est-à-dire que, je ne sais pas moi, imaginez que vous pouvez pas, il y a une catastrophe qui arrive, un tremblement de terre, un éboulement, un tsunami, vous ne pouvez pas sauver tous ceux qui sont autour de vous. Eh bien, vous devez faire passer d'abord, il y a votre épouse qui est à côté de vous, et vos enfants, eh bien, vous faites passer vos enfants et vos épouses avant. Votre épouse avant et vos enfants avant, parce que c'est la charité qu'ils demandent. Article 8, devons-nous aimer davantage ceux qui nous sont plus unis par les liens du sang? Oui, alors ça, on voit très bien, on peut utiliser ces articles pour répondre à l'objection ridicule de François à Rome à propos des migrants. Donc, est-ce qu'il faut d'abord commencer par aimer les migrants et aider les migrants qui vont venir littéralement envahir notre pays et flanquer la pagaille dans tout notre pays? Ou est-ce qu'il faut commencer par faire passer les gens du pays avant les gens de l'extérieur? Le bon sens élémentaire, et la foi catholique nous dit, le prochain proche passe avant. Hein, le prochain proche passe avant, et on voit très bien même actuellement, avec l'arrivée des migrants, les catastrophes sanitaires qui commencent à se préparer un peu partout, avec des maladies nouvelles qui apparaissent, etc. Pourquoi? Parce qu'on a laissé rentrer tous ces gens-là. Du coup, les Français, beaucoup de Français sont en dessous du seuil de pauvreté, et on aide les gens à côté. Moi, je me promène sans carte vitale, j'ai pas d'assurance, j'ai rien du tout, et puis les migrants, les tas de trucs que moi j'ai pas. Bon, ben, c'est pas très normal. Voyez. Alors, article 8, devons-nous aimer davantage ceux qui nous sont plus unis par les liens du sang? C'est un peu la même question. Donc c'est les gens qui sont plus proches, spirituellement parlant et physiquement parlant, doivent passer avant. Nous devons aimer spécialement ceux qui nous sont plus étroitement unis par les liens du sang. Nous devons, dans les choses qui regardent la nature, aimer davantage nos parents, par exemple. Bon, l'amour des parents est le premier, le plus stable de tous les amours. Ça, c'est pour quelqu'un qui n'est pas marié, on verra après. Pour quelqu'un qui est marié, les choses changent déjà un peu. Vous voyez? une personne qui est mariée,
sa femme,
son épouse et ses enfants passeront à ses parents.
D'accord.
On va voir ça. Donc, il est permis d'aimer plus que ses parents un ami avec lequel on s'entend mieux, mais l'amitié à l'égard des parents l'emporte toujours sur toutes les autres en ce qui concerne la nature. Si le soldat obéit à son chef plutôt qu'à son père, il ne s'ensuit pas qu'il a moins d'amour pour son père que pour son chef, il ne préfère celui-ci que relativement à la guerre. Dans un cas particulier, le premier devoir du soldat, c'est d'obéir à son chef militaire, avant son parent. D'accord ? Donc Saint Thomas va monter dans la hiérarchie. L'homme, c'est très intéressant, donc l'homme, article 9, doit-il aimer son fils plus que son père ? On doit aimer Dieu d'abord, disait Saint Ambroise, ensuite ses parents, puis ses enfants, enfin ses serviteurs. Encore une fois, il y a une hiérarchie. Donc le père, le degré de l'amour s'apprécie d'après l'objet aimé, d'après le sujet aimant. Le père, qui est comme principe ressemble davantage à Dieu, doit sous ce rapport être aimé plus que le fils. Le fils, plus étroitement uni au père que le père ne l'est au fils, doit être aimé d'un amour plus intense. D'accord ? Donc après, il faut voir au cas par cas, en fonction des circonstances. C'est là où il faut introduire le conseil et la vertu de prudence. Les enfants doivent surtout honorer leurs parents et les parents pouvoir aux besoins de leurs enfants. Les enfants sont obligés à leur tour de secourir leurs parents dans la nécessité. Ça, c'est très important à expliquer, surtout aujourd'hui. Dans les pays pauvres, il n'y a pas de problème. Dans les pays pauvres, ce n'est même pas l'idée. Dans un pays pauvre, un pays en voie de développement, par exemple certains pays d'Afrique ou de l'Amérique latine, il ne verrait pas l'idée d'un père de famille de mettre son propre père, ses propres parents qui sont vieux, au mouroir ou dans une maison de retraite. Pour eux, ça scandalise ces gens-là quand ils viennent en France et qu'ils voient qu'on met nos parents dans les maisons de retraite, ils ne comprennent pas. Avec raison, avec raison. Bon, les choses sont un peu différentes en France, c'est sûr, mais ils disent, mais nous, on ne fait jamais comme ça. On prend nos vieux parents chez nous, parce qu'on sait très bien qu'un jour, nous aussi, on sera vieux et qu'on serait bien content d'être pris en charge par nos enfants. Et les enfants voient le modèle et suivent le modèle, d'accord ? Article 10, le fils doit-il aimer sa mère plus que son père ? Donc, après Dieu qui est notre père, dit Saint Jérôme, le fils doit aimer son père plus sa mère. Encore une fois, il peut y avoir des cas où l'inverse est nécessaire. Par exemple, le cas d'un père qui ne fait pas son travail. Le cas, par exemple, d'un père qui est un brute, ça arrive malheureusement dans certains milieux, un père qui est très violent et qui attaque constamment son épouse devant ses enfants. Bon, ben, dans ce cas-là, le fils de famille doit le devoir de protéger sa mère contre son père. Hein. Absolument parlant, dit saint Thomas, on doit aimer son père plus que sa mère. Le père est le principe de l'origine d'une manière plus éminente que la mère. Celle-ci aimant davantage ses enfants, il est vrai que les enfants doivent aussi l'aimer davantage. Donc encore une fois, on voit bien que saint Thomas fait des restrictions et précise certaines choses, parce que les choses ne sont pas forcément mathématiquement applicables comme ça. D'accord ? Article 11, la question 26. L'homme doit-il aimer son épouse plus que son père et sa mère ? Alors, là, c'est intéressant de voir comment il répond. Les parents aimés comme principe appartiennent à un ordre supérieur et sous ce rapport, c'est ça la phrase importante, sous ce rapport, l'homme doit les aimer plus que son épouse. Mais l'amour se prenant aussi de l'union de l'objet aimé avec le sujet aimant, l'épouse à cet autre point de vue doit avoir la préférence comme unie à l'homme dans une même chair. Selon cette parole de saint Matthieu, ils ne sont plus deux, ils sont une même chair. L'homme doit donc à son épouse un amour plus intense et à ses parents un amour plus respectueux. Oui, il fait bien la distinction entre l'intensité de l'amour, qui doit être plus grand pour la personne qui est devenue son premier prochain, à savoir son épouse, mais un amour plus respectueux pour son parent, parce que ses parents, parce qu'ils sont le principe de sa vie. D'accord ? Article 12. L'homme doit-il aimer son bienfaiteur plus que son protégé ? Le bienfaiteur, dit saint Thomas, comme principe d'un bienfait pour son protégé, se rattache à un ordre supérieur et doit donc être aimé davantage sous ce rapport. Donc, ça, c'est relativement simple. Dieu nous aime plus que nous ne saurions l'aimer. Les parents donc aiment leurs enfants plus qu'ils n'en sont aimés. Quoi qu'il en soit, Dieu et nos parents, à qui nous sommes redevables du plus grand des biens, doivent être plus aimés de nous que nos protégés, auxquels nous faisons un bien moindre. Donc, encore une fois, il faut avoir la prudence de voir que les choses peuvent changer selon les circonstances. D'accord ? Un autre article très important, l'article 13, le dernier article de la question 26. L'ordre de la charité subsiste-t-il dans le ciel ? Alors voilà ce que répond saint Thomas. La gloire du ciel perfectionne la nature, elle ne détruit pas la nature. L'ordre de la charité y subsistera. Rappelez-vous, la phrase de saint Paul, hein, le plus grand c'est la charité. La foi, l'espérance, la charité, le plus grand c'est la charité, tout simplement parce que la foi et l'espérance sont nécessaires pour des viateurs. Ici nous sommes des viateurs, c'est-à-dire nous sommes sur le chemin, sur la via, le chemin. Et donc ici il nous faut croire en quelque chose qu'on ne voit pas, donc il faut la foi. Il nous faut espérer en quelque chose qu'on ne possède pas encore, donc il faut l'espérance. Et il faut aussi la charité pour obéir Dieu et le prochain comme nous-mêmes, par amour pour le bon Dieu. Mais une fois qu'on sera au ciel, on verra Dieu, on possédera Dieu, et donc il n'y aura plus besoin ni de la foi ni de l'espérance. Par contre, il y aura besoin de la charité. D'accord ? C'est une réponse de saint Thomas, une réponse de bon sens. Vous voyez qu'en utilisant ces textes de saint Thomas qui n'ont pas pris une ride, on peut voir le devoir grave de charité de protéger notre pays. On peut voir la férocité des réactions de tous les ennemis de l'Église avec la victoire électorale de Orban, Viktor Orban en Hongrie, là, qui a eu des paroles magnifiques justement pour protéger son pays. C'est la victoire de la protection du pays. On protège la Hongrie contre les ennemis de la Hongrie, contre les ennemis du pays. Et puisqu'on ne peut pas accepter toutes les misères de la terre, et bien on dit non aux migrants tout simplement pour protéger le pays. Il a parfaitement raison. On s'en passait le bon Dieu avant, quoi. Article, donc question 27. Rapidement, c'est même plus simple. Donc la question 27. Question 27 du principal acte de la charité qui est l'amour. Donc encore une fois, là il faut bien remettre les sens sur les mots. Il dit qu'il y a deux mots qui ont été complètement galvaudés aujourd'hui. Le premier c'est le mot amour, le deuxième c'est le mot liberté. Alors on utilise le mot liberté pour n'importe quoi, on utilise le mot amour aussi pour n'importe quoi. Article 1 de la question 27, est-il plus essentiel à la charité d'aimer que d'être aimé ? Donc, répond de saint Thomas, la charité consiste à aimer, être aimé n'est pas son acte. Donc, il est plus important d'aimer que d'être aimé. Bon. Et même dans certains cas, le bon Dieu demande d'aimer, même si on n'est pas aimé, en retour. C'est le cas, par exemple, d'une mère de famille qui s'occupe d'un enfant malade qui est un peu ingrat, ou d'un mari qui est un peu ingrat, à cause d'une série de circonstances. Eh bien, elle doit aimer son mari, même si le mari ne lui rend pas. En un mot, il était plus essentiel à la charité d'aimer que d'être aimé. C'est d'ailleurs beaucoup plus vertueux d'aimer quelqu'un qui ne nous le rend pas que d'aimer quelqu'un qui nous dit merci toutes les 30 secondes. D'accord ? Deuxième article de la question 27. L'amour de la charité est-il de la bienveillance ? Réponse de saint Thomas. La bienveillance, l'amour de charité comprend la bienveillance. Mais il ajoute une notion, une union affectueuse avec l'objet aimé. Ça c'est très important pour les rapports entre époux dans une famille. Il faut qu'il y ait cette affection. Les femmes ont besoin d'affection beaucoup plus que les hommes, et donc il ne s'agit pas simplement pour le mari d'aimer son épouse, il faut aussi qu'il manifeste la tendresse pour son épouse, vous voyez, et pas simplement avec les actes sexuels entre époux, mais je dirais par des petites choses de tous les jours, il manifeste sa tendresse qui est beaucoup plus importante pour une épouse, et sinon il manque quelque chose qui est nécessaire pour l'équilibre de l'épouse. Donc, l'amour de charité doit comporter la bienveillance. Article 3, Dieu doit-il être aimé pour lui-même dans la charité ? Non. Alors voilà ce que dit saint Thomas. Donc il a fait toute une série de distinctions. Examinez les causes d'après lesquelles on peut aimer une chose pour une autre et vous verrez que Dieu doit être aimé pour lui-même. Dieu se rapporte-t-il à une cause finale ? Non. Il est au contraire la fin dernière de tous les êtres. Et ce pourquoi nous sommes ici sur la terre. Donc, il doit être aimé par un autre, pour une autre fin que lui-même. Et a-t-il une cause formelle qui lui donne sa perfection ? Non. Il ne doit son excellence qu'à lui-même. Il est lui-même la perfection. D'accord ? A-t-il une cause efficiente ? C'est-à-dire, est-ce qu'il vient de quelqu'un ? Bien sûr que non, puisqu'il est Dieu. Il est lui-même sa raison d'être. Et a-t-il une cause matérielle ? C'est-à-dire, est-ce qu'il est fait avec quelque chose ? La réponse est non. Dans ce même sens, Dieu peut être aimé pour autre chose que pour lui-même, dans le sens que certaines choses nous portent à l'aimer davantage. D'accord ? Donc il faut retrouver un petit peu les quatre causes, et aussi la grande question de saint Thomas sur l'épreuve de l'existence de Dieu. Hein ? L'épreuve les cinq voies de l'existence de Dieu. Hein ? Donc, on a déjà étudié en début de la première partie, début de la somme théologique de de saint Thomas d'Aquin. Article 4. Pouvons-nous en cette vie aimer Dieu immédiatement ? Donc, réponse de saint Thomas, la charité qui ne sera pas détruite attient Dieu directement. Pourquoi ? Parce qu'on aime le prochain par amour de Dieu. Donc, c'est Dieu qui, à chaque fois, bénéficie de cette charité dans le sens qu'on augmente sa gloire conséquente. D'accord ? La connaissance part des créatures pour arriver à Dieu, la charité part de Dieu pour arriver aux créatures. Donc, j'aime les créatures dans la mesure où ces créatures m'aident à aller vers le bon Dieu. Bon. J'utilise les créatures pour arriver à Dieu. Au contraire, la charité part de Dieu pour arriver aux créatures. Parce que Dieu existe, je dois aimer les créatures. Alors, article 5, donc là, il n'y a pas de difficulté particulière, donc je vais passer rapidement. Dieu peut-il être totalement aimé ? La réponse est toute simple. Dieu est infiniment aimable, mais nulle créature ne peut aimer infiniment, parce que pour aimer Dieu tel qu'il faudrait l'aimer, il faudrait Dieu soi-même. Donc, il n'y a que le Fils, le Saint-Esprit, qui, à cause de l'union substantielle qui existe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, peut, les trois personnes peuvent s'aimer de façon infinie dans le sein de la Sainte Trinité seulement. D'accord ? Nous, on n'est pas capable d'aimer Dieu infiniment au même degré. Faut-il, article 6, que l'amour de Dieu est une mesure ? Réponse de Saint Bernard, qui est très connu. La mesure de notre amour pour Dieu, c'est d'aimer sans mesure. Le motif d'aimer Dieu, c'est Dieu lui-même. Dieu étant infini, donc le degré d'amour que nous avons pour lui doit être infini. La règle, donc, dit saint Thomas, de toutes nos actions, de toutes nos affections, c'est l'amour de Dieu qui nous conduit à notre fin dernière. Plus on aime Dieu, plus l'amour est parfait. Plus on aime Dieu, plus on aime le prochain pour l'amour de Dieu. Plus on aime Dieu, plus on s'aime soi-même pour l'amour de Dieu. D'accord ? La mesure de l'amour de Dieu, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur. Article 7, donc je passe rapidement pour arriver là où on reprend le polycopier, la question, article 3, la question 28. Est-il méritoire d'aimer ses ennemis plus son ennemi ? Attendez. Est-il plus méritoire d'aimer son ennemi que son ami ? Voilà ce que dit saint Thomas. Il est plus odieux de détester un ami que de haïr un ennemi. Reprends la question. Il est plus odieux de détester un ami que de haïr un ennemi. Du côté de la raison qui fait aimer le prochain, l'amour d'un ennemi est plus méritoire. Pourquoi ? Parce que ça va plus contre notre nature. C'est facile d'aimer un ami, mais il est plus méritoire d'aimer notre ennemi. Mais l'amour des amis est méritoire quand on les aime pour Dieu. Et c'est la même chose pour l'amour des ennemis d'ailleurs. L'amour des ennemis est méritoire dans la mesure où on les aime pour Dieu. D'accord ? Donc, aimer les migrants qui sont en train de détruire complètement notre culture, c'est plus de la charité. C'est du suicide. Pas pareil. Est-il plus méritoire d'aimer le prochain que d'aimer Dieu ? L'amour de Dieu est sans contredit plus méritoire que celui du prochain. Parce que Dieu est au-dessus du prochain. D'accord ? Donc, question 28. Des actes, des effets intérieurs de la charité, d'abord de la joie. Alors là, il y a des choses très intéressantes qu'on va toucher. Question 28, la joie. Question 29, la paix. Question 30, la miséricorde. Et les choses splendides. Après, question 31, de la bienfaisance. Question 32, de l'aumône. Et il y a question 33, de la correction fraternelle. Oui, toute une série de choses très intéressantes là qu'il faut bien développer et qui vont nous aider à distinguer les choses. Après, saint Thomas va passer. Donc il va parler d'abord des choses positives et ensuite des choses négatives. Est-ce que il a parlé des vices contraires à la charité, par exemple de la haine, de la colère. Est-ce que j'ai le droit dans certains cas d'être en colère ? Est-ce que j'ai le droit dans certains cas d'avoir de la haine ? Donc c'est des choses très importantes. Alors je vais rapidement faire les deux premiers articles de la question 28. Comme ça on aura rejoint le polycopier page 96, l'article 3. Donc l'article 1 de la question 28. La charité produit-elle la joie ? Bon, c'est ce qu'on appelle les fruits du Saint-Esprit. Donc il y a les fruits du Saint-Esprit, il y en a 12. Les trois premiers, c'est la charité, la paix et la joie. Nous avons vu dans le traité des passions, dit saint Thomas, que l'amour produit la joie et la tristesse. La joie dès que le bien qu'on aime est présent, la tristesse quand ce bien est absent. D'accord ? Donc, il y a une joie, si vous voulez, qui doit venir, une joie surnaturelle qui doit provenir de l'amour de Dieu. un saint triste est un triste saint, dit l'adage, et c'est parfaitement exact. Quelqu'un qui vit habituellement en état de grâce, malgré les croix, malgré les difficultés, malgré les tentations, parce que les tentations sont là tout le temps, et quelqu'un qui doit avoir cette joie. Et c'est une chose, encore une fois, qui m'a beaucoup, beaucoup frappé chez Mgr Lefebvre. Cette joie, j'irais plus la paix que la joie chez Mgr Lefebvre. Mgr n'était pas quelqu'un de très expansif, mais il avait cette paix intérieure, cette paix avec lui-même. J'ai jamais vu Mgr Lefebvre s'énerver pour quelque chose. Jamais. Même dans les cas où il aurait eu le droit de s'énerver. Moi, je serais sorti de mes gonds. Et lui, je me rappelle, une fois, il ne s'est pas énervé, mais on avait des véhicules de communauté au séminaire, et une fois, il y a un moteur qui a grillé, parce que le conducteur précédent avait bien vu qu'il y avait un voyant qui s'était allumé, qui indiquait un manque d'huile, mais il n'est pas signalé. Résultat, on a grillé le moteur. Non, bon, on a fait une conférence spirituelle sur l'esprit de pauvreté, en disant que la personne qui n'avait pas fait signaler ça manquait gravement à la charité, à l'esprit de pauvreté, parce qu'on était obligé de changer le moteur, ce qui coûte évidemment très cher. Et donc, il n'était pas content du tout, mais même dans la façon dont il nous l'a dit, il n'y avait pas de colère, pas d'impatience. Vous voyez, cette espèce d'union à notre Seigneur Jésus-Christ qui a entraîné chez Mgr Lefebvre une paix extraordinaire.
Il est maître des passions totalement.
Voilà, c'est ça. J'ai, encore une fois, jamais vu Mgr s'énerver. Jamais vu Mgr Lefebvre en colère. J'ai jamais vu Mgr Lefebvre manifester du dégoût pour quoi que ce soit. Oui. Même quand il était obligé de s'occuper de choses qui n'étaient pas très reboutantes, hein, qui n'étaient pas très faciles à vivre, les difficultés avec des prêtres, les difficultés avec les séminaristes, et bien il s'en occupait toujours avec une extraordinaire charité. Quand on allait frapper à la porte de Mgr Lefebvre et qu'il est en train de travailler, il voyait un de ses prêtres qui arrivait, un de ses séminaristes qui arrivait, et bien tout de suite c'était là, il lâchait tout pour ce qu'il faisait. On avait l'impression qu'il était la seule personne importante pour lui. Oui. C'était cette extraordinaire charité que Mgr Lefebvre avait, même encore une fois, je n'ai pas l'intention de dire que tout était parfait dans tout ce que faisait Mgr, c'est pas ce que je veux dire, il peut y avoir des fautes de jugement comme tout le monde. Mgr n'était pas impeccable, l'impeccabilité, ça veut dire il n'y a qu'un saint nuage qu'il a, c'est un privilège en tant qu'Immaculée Conception, mais il avait cette extraordinaire paix, et je pense que ça c'est très important pour nous. Donc, la charité produit la joie, elle produit une joie spirituelle. Celui qui demeure dans la charité, dit saint Jean, demeure en Dieu et Dieu en lui. Article 2, la joie que produit la charité est-elle mêlée de tristesse? La charité, dit saint Thomas, produit en nous deux sortes de joie. L'une principale, par laquelle nous nous réjouissons du bien divin considéré en lui-même. Et il y en a une autre qui est secondaire, et qui est celle par laquelle nous nous réjouissons du bien divin en tant que nous y participons. Cela peut être uni à la tristesse, dit saint Thomas, et c'est ce qui a lieu lorsqu'on s'afflige des obstacles qui empêchent pour soi ou pour le prochain la participation à la béatitude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la pratique, on peut avoir une tristesse, par exemple, du péché des autres. Une tristesse de son propre péché. Ça ne veut pas dire que ça va entraîner un découragement, mais l'amour du bon Dieu va entraîner une grande joie spirituelle d'aimer notre Seigneur Jésus-Christ et d'être aimé par lui, mais en même temps, une certaine tristesse de voir que notre Seigneur Jésus-Christ est profané, est vilipendé, est abandonné complètement dans notre pays.
C'est ce que Jésus-Christ a vécu à la Passion.
Exactement, oui. Donc nos péchés passés, ceux du prochain, les misères de cette vie, voilà les obstacles. C'est une note de vers le Breton dans le livre que je suis. Nos péchés passés, ceux du prochain, les misères de cette vie, voilà les obstacles qui empêchent notre participation immédiate et parfaite au bien divin. Donc là, on arrive à l'article 3, les joies de la charité. La joie de la charité, pardon, peut-elle être pleine et entière? Donc là, on retrouve la partie qui est expliquée sur le polycopier, donc à la page 96. Donc on prendra ça si Dieu le veut, dis-moi, jeudi prochain. Donc aujourd'hui, on est combien? On est le 12, c'est ça?
Demain, c'est vendredi 13.
Ouais, 12-04 2018. Donc on en est là. Dans le prochain cours, si Dieu veut, jeudi prochain. Donc je vous ai dit que je ne serai pas là pour le cours de mardi, c'est pour ça que je l'ai déjà mis sur le cours d'exégèse et déjà placé sur le site. On va terminer par une petite prière. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il.
Nos saints anges gardiens,
veillez sur nous.
Saint Joseph,
priez pour nous.
Saint Thomas d'Aquin,
priez pour nous.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Amen.